Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Et ce matin, Julie, les tensions en Asie centrale à la frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan.
Oui, un accord de cessez-le-feu a pour l'instant mis fin aux tirs de garde-frontière, mais les affrontements du mois de septembre ont fait plus de 100 morts, détruit des écoles, des marchés, des commerces. Ces attaques ont eu lieu sur la frontière entre ces deux pays voisins occidentaux de la Chine, mais aussi un peu plus loin, à l'intérieur du Kirghizistan. Le Kirghizistan et le Tadjikistan sont deux pays de l'ex-URSS, indépendants depuis 1991. La Russie continue à y jouer un rôle important, mais comme dans le Caucase, quand plusieurs villes d'Arménie se sont fait bombarder par l'Azerbaïdjan en septembre, eh bien la Russie a pour une fois été aux abonnés absents. Bonjour Olivier Ferrando.
Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de Lyon, chercheur rattaché à l'unité de recherche Confluence Sciences et Humanités et spécialiste de l'Asie centrale post-soviétique. Vous avez fait paraître, Olivier Ferrando, il y a quelques jours sur le site de The Conversation, un article sur les effets funestes de la militarisation des frontières entre Kirghizistan et Tadjikistan, car comme vous le rappelez dans ce texte, ces affrontements ont commencé par des frictions entre gardes-frontières. Alors combien de soldats sont disposés aujourd'hui dans la vallée du Fergana de part et d'autre de cette frontière? Comment se manifeste cette militarisation?
Alors en fait, j'ai pas de chiffres exacts, hein, c'est pas des informations qui sont rendues publiques, mais la présence de ces gardes-frontières et de militaires de manière générale entre les deux pays, c'est une réalité relativement récente, puisque ce sont deux pays, comme vous l'avez dit, qui sont indépendants seulement depuis 30 ans. Il faudrait presque une carte pour expliquer la situation. Bon, on est à la radio, donc je vais essayer d'expliquer, mais... les deux pays sont à peu près de la même taille, un peu comme la Biélorussie, hein, si on veut un ordre de grandeur. Et la frontière qu'ils ont, ils partagent en fait 1000 km de frontière. Et cette frontière, elle est relativement complexe pour différentes raisons. Et notamment dans la vallée du Fergana, qui est cette région où les conflits se concentrent. C'est d'abord une forte densité de population, qui ne cesse de s'aggraver du fait de la forte croissance démographique. Un tracé des frontières qui est complexe, c'est-à-dire qu'à cet endroit, les deux pays s'imbriquent l'un dans l'autre, avec la présence notamment d'enclaves territoriales qui sont coupées du reste du pays et qui posent problème pour la libre circulation des citoyens. Et enfin, et c'est le principal problème, le fait que les deux pays ne se sont toujours pas accordés pour délimiter et démarquer cette partie de leur frontière, qui correspond à peu près à 50% en fait de l'ensemble de la frontière qu'ils devraient définir. Et c'est ce vide juridique qui explique en partie la récurrence des conflits. Alors normalement, d'après une déclaration qui a été signée en 1991 entre plusieurs pays, et notamment les cinq pays d'Asie centrale, cette déclaration les engageait à respecter le principe d'intégrité territoriale. Et donc ils sont supposés hériter des frontières de 1991, et ce n'est pas le cas puisque il y a des tensions au moment de définir vraiment où se situe la frontière.
Voilà, parce que c'est une frontière de 972 km, vous le disiez, près de la moitié de ces 972 km n'ont pas été délimités. Donc comment et par qui a été tracée cette frontière entre Tadjikistan et Kirghizistan telle qu'elle existe aujourd'hui, avec aussi ces pointillés?
En fait, en 1991, au moment de l'indépendance, ils ont hérité des frontières qui ont été tracées à l'époque de la création de l'Union soviétique, puisqu'on était sur un terrain qui avait été colonisé par la Russie et qui, en 1924, est entré finalement dans l'Union soviétique toute récemment construite. Et il a fallu tracer en fait des frontières pour délimiter des territoires à une époque où il n'y avait pas encore de territoires nationaux. Et ce processus a été long, et il a connu de nombreuses modifications, y compris tout au long de la période soviétique. C'est pour ça qu'on a différentes cartes, en fait, qui renvoient à des schémas différents. L'idée initiale, le concept initial, c'était de faire correspondre les frontières à des espaces de peuplement qu'on pourrait dire ethniquement homogènes. Et cela s'est avéré très compliqué du fait de l'enchevêtrement des populations. Par exemple, au Tadjikistan, aujourd'hui, dans la partie donc, qui nous concerne, la vallée du Fergana, un tiers de la population est ouzbek. Du côté du Kirghizistan, c'est un quart de la population qui correspond à des minorités ethniques. Donc le découpage n'a finalement pas respecté ces aires de peuplement, mais à l'époque, ça importait peu parce qu'il s'agissait de découper des républiques soviétiques qui étaient toutes unies finalement sous la chape soviétique. Oui. Dans une même vallée, on pouvait passer, une route pouvait desservir à la fois un village tadjik, kirghize, des villages partagés des mêmes infrastructures, des écoles, des dispensaires, des terrains de sport. Et donc il y avait un véritable espace commun de socialisation des populations qui étaient pourtant rattachées administrativement à des républiques différentes.
Donc ces nouvelles frontières qui étaient jusqu'à présent des frontières internes à l'URSS, des frontières administratives, deviennent en 91 vraiment des frontières entre États avec des entraves à la libre circulation, mais surtout 10 années plus tard à peu près, quand la question sera vraiment prise au sérieux et des militaires envoyés entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Pourquoi on est en plein contexte d'attentats?
Alors en fait, c'est un cadre bien particulier. C'est vrai que les 10 premières années ont été relativement calmes au moment des indépendances et il n'y avait pas vraiment de contrôle très strict des frontières parce que c'était tout nouveau et les États se connaissaient relativement bien. Et le danger est apparu en 1999 et les années suivantes, puisque, rappelez-vous, à l'époque, il y avait les talibans qui étaient en Afghanistan. Ils hébergeaient des groupes djihadistes et notamment un groupe qui voulait établir un califat en Asie centrale. En 1999, c'est la première fois où des raids sont opérés à partir de l'Afghanistan, traversent le Tadjikistan, arrivent au Kyrgyzstan et menacent en fait tout l'équilibre de la région. Et c'est précisément à ce moment finalement que s'est opéré donc le premier virage sécuritaire de la frontière. Les autorités des deux pays, et pas seulement l'Ouzbékistan également, qui étaient concernés, ont réalisé combien il était important de contrôler les territoires frontaliers. Et c'est à ce moment-là, en fait, comme vous le dites, que des armées ont été déployées. Toutes les petites routes secondaires qui étaient si importantes, justement, pour la libre circulation des populations, ont fait l'objet de contrôles très stricts avec des checkpoints, et parfois même carrément fermés. Et ce qui est un petit peu triste, c'est que cette menace, aujourd'hui, elle n'existe plus en tant que telle. On sait très bien que le régime des talibans a été renversé en 2001. Et pour autant, la militarisation a toujours été l'idée poursuivie par les deux pays comme la meilleure solution. Et ce qu'on observe finalement ces dernières années, c'est que les disputes qui existaient, parce qu'il ne faut pas se cacher de cela, hein, il y avait vraiment des conflits territoriaux. Et même dès les années 30, lorsque le découpage se faisait sans forcément pouvoir respecter vraiment les espaces de peuplement, eh bien ces petits conflits, ces disputes, on va dire, entre villageois qui prenaient la forme à l'époque de jets de pierre elles sont devenues de vrais conflits armés entre deux armées, et notamment ces deux dernières années, puisqu'il y a eu deux conflits successifs en 21 et 22, c'est l'usage de tirs de mortier, cette année même de drones de combat. Donc on est vraiment sur une guerre conventionnelle quasiment, hein, ce qui génère d'ailleurs des pertes humaines et des dégâts matériels considérables, comme vous les avez cités. C'est en 2 jours seulement qu'on a 100 morts et des centaines de maisons qui sont détruites, donc c'est très intensif.
Avec aussi une question d'accès aux ressources, la région est riche en eau. Alors le Kyrgyzstan et le Tadjikistan font tous les deux partie de l'organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, initié par la Russie et conçu par elle comme un contrepoids à l'OTAN, voire son équivalent eurasiatique. Et en vertu du traité qui les lie depuis 1992, les États membres se doivent assistance en cas d'agression. On a vu qu'en Arménie, qui en fait partie aussi, elle n'a pas pu compter sur le soutien russe en septembre quand l'Azerbaïdjan a bombardé certaines localités arméniennes. Est-ce que le Kremlin est intervenu d'une manière ou d'une autre pour s'interposer entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan?
Vous mettez le doigt en fait vraiment sur un point important, c'est finalement qui a pouvoir pour réguler, pour aider ces États à réguler des conflits finalement locaux, puisqu'ils ne menacent pas l'équilibre international. Et ça a beaucoup changé depuis l'invasion russe de l'Ukraine, bien évidemment. En fait, la Russie, elle intervient à deux niveaux. Elle peut intervenir de manière bilatérale et elle peut intervenir dans le cadre de cette alliance militaire que vous avez mentionnée. Dans le cadre bilatéral, en fait, la Russie a signé des accords de coopération militaire avec les deux pays. Elle dispose d'ailleurs de bases militaires dans chaque pays, chacun des deux pays s'attendait ou enfin avait une conception de ces bases comme un vrai outil pour les aider militairement en cas de besoin. Il s'avère que ça n'a jamais été utilisé, en tout cas dans ce cadre-là, et les effectifs même des deux bases ont été considérablement réduits depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, puisqu'à peu près 20 à 30% des soldats ont été transférés, des soldats russes hein, bien évidemment, ont été transférés vers le front ukrainien. Mais de toute façon, dans ce cadre bilatéral, la guerre en Ukraine, elle a fini d'enlever toute légitimité politique à la Russie hein, dans son rôle stabilisateur, notamment en ce qui concerne le respect des frontières, puisque la Russie elle-même a violé le principe d'intangibilité des frontières en Ukraine. Donc elle n'a plus vraiment de légitimité à cela. Le deuxième élément, ce serait donc l'alliance militaire, puisque cette organisation donc, qui réunit la Russie avec 5 républiques ex-soviétiques, dont le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, mais également le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Arménie. Eh bien, ce conflit entre le Kirghizistan et le Tadjikistan est le premier qui oppose deux membres de l'Alliance depuis sa création en 92. Et il faut le rappeler, cette Alliance, son objectif premier, c'est précisément de garantir la stabilité régionale. Donc on peut dire qu'elle a échoué, et notamment la clause de défense mutuelle, qui est cette clause équivalente à l'article 5 de l'OTAN, elle ne peut être activée, puisqu'il ne s'agit pas d'une menace extérieure sur l'un des deux membres. Et de toute façon, Et vous l'avez rappelé, en fait, ce n'est pas seulement l'Asie centrale et le Tadjikistan et le Kirghizistan qui sont concernés ici, puisque même face à l'attaque armée qu'a subie l'Arménie de la part de l'Azerbaïdjan cet été, eh bien, l'Alliance militaire a opposé une fin de non-recevoir. Pourtant, là, un membre de l'Alliance était bien attaqué et subissait une attaque d'un externe. Donc le seul cas d'intervention, malheureusement, que l'on peut rappeler, c'est celui qui a eu lieu au Kazakhstan en début d'année. Et dans ce cas-là, l'Alliance militaire a été déclenchée pour aider le gouvernement à réprimer un soulèvement populaire qui risquait de le faire chuter. Il est donc clair que l'Alliance militaire est en fait un collectif, mais au service unique des intérêts de Moscou. Et dans ce cas-là, l'intérêt, c'est de soutenir des régimes amis, autoritaires, et surtout pas de promouvoir la démocratie à ses frontières.
Autoritaire, le Tadjikistan est présidé depuis 30 ans par Emomali Rahon. Le Kirghizistan, lui, est considéré souvent comme la seule démocratie d'Asie centrale, même si, parce que les élections y sont pluralistes, mais un homme, c'est-à-dire Japirov, a pris le pouvoir, a été élu en janvier 2021 et voulait faire adopter une nouvelle constitution, mettre fin au régime parlementaire. Est-ce que ces régimes, le statut politique de ces pays aujourd'hui a à voir avec les relations qu'ils entretiennent aujourd'hui avec Moscou ?
Alors c'est vrai que les tensions des deux dernières années ont une temporalité. Elles correspondent finalement à l'opposition de ces deux régimes. D'un côté, comme vous l'avez dit, un régime très autoritaire. Il faut rappeler qu'Emomali Rahmon est issu en fait de la guerre civile au Tadjikistan. Il a été le chef de guerre pour mener cette guerre dans les années 90, et donc il est toujours perçu comme un chef de guerre. Et en face, on a quelqu'un qui est arrivé par un renversement populaire, on va dire, du pouvoir, mais qui arrive aussi avec un discours très populiste. Et donc la frontière est une ressource rhétorique très importante pour les deux, sur lequel ils vont asseoir leur pouvoir finalement autoritaire et nationalo-populiste finalement.
Et un petit mot peut-être pour conclure, Olivier Ferrando, pour vous demander si le Tadjikistan continue malgré tout à recevoir une assistance militaire de la Russie, mais aussi de la Chine et des États-Unis, qui, dans le but entre guillemets de contenir la menace talibane.
Oui, et en fait, c'est ça aussi un élément important à souligner, c'est que depuis la chute du régime à Kaboul et l'arrivée des talibans, eh bien, le Tadjikistan ne cesse d'agiter le chiffon rouge en disant attention, menace, menace, alors qu'en fait, on sait très bien que ce régime taliban n'a absolument aucune velléité expansionniste, mais par cette manière, Rahmon a réussi à recevoir des aides considérables, et pas seulement finalement de la Russie ou de l'Alliance militaire, puisque des équipements militaires, des financements sont également fournis par la Chine, qui a installé une base militaire également aux frontières avec le Tadjikistan, les États-Unis. Donc en fait, quelque part, il est difficile de ne pas soutenir le Tadjikistan par rapport à la rhétorique qui est proposée par le président Rahmon et qui met finalement le Kirghizistan dans une position très délicate par rapport à ça.
Et depuis le début de la guerre en Ukraine, la Turquie aussi conclut des partenariats militaires avec les pays d'Asie centrale, y compris non turcophones comme le Tadjikistan. Merci beaucoup Olivier Ferrando d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de Lyon, chercheur rattaché à l'unité de recherche Confluence Sciences et Humanités, spécialiste de l'Asie centrale post-soviétique. Et là, je sais ce que vous allez dire, Baptiste. Vous allez dire que les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui et qu'on se retrouve lundi.
C'est vrai, j'allais dire ça.
Alors vous, oui. Et moi non, et je voulais remercier et dire au revoir aux auditeurs et auditrices des enjeux internationaux, les Leftos et ceux qui les écoutent en podcast. Alors voilà pourquoi Florian Delorme, qui a animé pendant plus de 10 ans la très belle émission Culture Monde, prend d'autres fonctions à France Culture, à la direction de la chaîne, je le laisserai l'annoncer à midi. Il m'a confié Culture Monde, c'est ridicule là.
Beaucoup d'émotions.
Voilà, il m'a confié Culture Monde du lundi au jeudi à 11h, vous êtes gentils, ainsi qu'à sa rédactrice en chef Mélanie Chalon. Donc pour le vendredi, alors c'était pas prévu ainsi, mais c'est donc ma dernière. C'est pas possible. Dites quelque chose, Baptiste.
Mais c'est ma dernière
des enjeux. Je vous transmets donc, Baptiste, les enjeux. C'est vous qui l'assurez désormais avec l'aide précieuse de Lucas Lazo. Vous avez de la chance. Prenez-en soin. Ça fait plus de 35 ans qu'elle existe, cette émission créée par Thierry Garcin. porté aussi pendant 2 ans par Xavier Martinez jusqu'en 2019, et moi aussi, et ben voilà, je vais pas y arriver.
Merci Julie, j'espère voilà. que je serai à la hauteur de votre enthousiasme et de votre sens de la précision. Et bon vent donc à Culture Monde. Culture Monde, c'est tous les jours à 11h sur l'antenne.
France Culture, l'esprit d'ouverture.